Et dans les tempêtes à venir, interprété par Joanne Bess. J'espère que vous avez apprécié. L'émission Acétone se termine à l'instant avec cette musique merveilleuse, chanson de Joanne Bess. Nous allons nous dire au revoir. En tout cas, merci Pascal et Xavier d'être venus. Vous pouvez dire au revoir aux auditeurs.
Merci à la Clé des Ondes de nous avoir accueillis. Et puis, on invite les auditeurs à se rapprocher de groupements forestiers ou à en créer sur place près de chez eux, si on est trop loin pour eux.
C'est une bonne initiative, tu as bien fait de le dire, Xavier.
Et merci. Et puis, j'apprécie particulièrement cette mission où on rapproche l'environnement et le social. Et c'est notre lutte majeure.
Ah ouais, ouais, mais c'est du grand art, hein, parce que oui. Les survols des sujets, je te dis pas, c'est toujours fait en live. Jean-Luc, merci de ta participation.
On se retrouve le mois prochain. Je crois qu'on parlera des européennes.
Oui, oui, je crois que ça va être une émission spéciale.
Exactement.
Sur l'Union européenne.
Exactement.
Allez, on va terminer cette émission avec la petite phrase d'Assez. Le monde changera sans fin. N'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile, et surtout pas récupérable, ni rééducable, d'y rester face à l'injustice. Ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté, sans oublier partisan. Allez, à que ciao, bonsoir, à la prochaine.
On commence avec quelques infos. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste.
Hier, mardi, avait lieu une mobilisation intersyndicale dans l'éducation nationale et la fonction publique.
Oui, les syndicats revendiquent une augmentation générale des salaires, leur indexation sur les prix et l'amélioration des conditions de travail des salariés au sein des services publics. Dans son communiqué, la CGT rappelle que l'objectif de ces mobilisations est de, je cite, « refuser une nouvelle politique d'austérité suite à la décision du gouvernement d'acter une coupe budgétaire de 10 milliards d'euros avec des répercussions sur le travail, notamment en direction des plus précaires, sans cesse dans le viseur du gouvernement. » Hier midi, une délégation composée de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU et de la CFDT a été reçue par la préfecture et plus d'un millier de personnes ont manifesté dans les rues de Bordeaux selon le Sud-Ouest et la CGT. Cette mobilisation prend place au sein de la semaine d'action « Non au choc des savoirs, oui au choc des salaires et des moyens pour un autre projet pour l'école ». La grève continue aujourd'hui avec un rassemblement en ce moment même devant le rectorat de Bordeaux. Par ailleurs, toujours hier aux alentours de 13h, la rocade a aussi été bloquée pendant une vingtaine de minutes par une opération escargot initiée par le collectif des infirmiers libéraux qui poursuivit en direction des quais et de la place Gambetta.
Hier a eu lieu également le lancement de la sécurité sociale de l'alimentation en Gironde. Léa.
Cette expérimentation de caisse commune réunit le collectif Acclimatation, 80 citoyens et citoyennes issus d'un parcours d'engagement, le département de la Gironde et la mairie de Bordeaux, et concerne 4 territoires dont Bègles, Bordeaux, le Pays Foyen et le Sud Gironde. Le 7 mars dernier, nous avions reçu Estelle Salavoutas du Centre Social Bordeaux Nord et Lucille Lucas du collectif Acclimatation pour cette occasion dans le plat de résistance, et nous vous invitons à réécouter le podcast sur le site de la Clé des Ondes.
Et puis 2 appels à mobilisation et à soutien. Le premier, c'est une journée en soutien à la Palestine.
Oui, dimanche 31 mars, le Rocher de Palmer et plusieurs artistes bordelais lance un concert de soutien au peuple palestinien. Cette mobilisation permettra d'alimenter un fonds créé par le musicien Ramzi Abouredouane et le conservatoire Saïd à Ramallah, qui sera ensuite reversé aux artistes palestiniens et palestiniennes qui survivent à Gaza. Je rappelle la date, dimanche 31 mars à 14h, au Rocher de Palmer à ce nom.
Et puis le deuxième, c'est un appel à mobilisation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
Oui, une manifestation aura lieu à Lannemezan, ville où Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné, le samedi 6 avril prochain à 13h. Le collectif Libérons Georges 33 lance aussi un appel à la solidarité financière pour recueillir des dons qui permettront d'affréter 2 bus qui partiront de Bordeaux pour rejoindre la mobilisation du 6 avril. Leur communiqué rappelle, je cite, « En juin 2023, l'avocat de Georges Abdallah, maître Jean-Louis Chalancé, a déposé une nouvelle demande de libération conditionnelle devant le juge d'application des peines de Paris. Alors que le peuple palestinien subit un génocide depuis plusieurs mois dans la bande de Gaza, que la colonisation et les exactions continuent en Cisjordanie, nous devons plus que jamais soutenir la résistance du peuple palestinien et exiger la libération de Georges Abdallah. »
Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. Midi 14 sur la clé des ondes. Alors le 25 mars 2023, Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, était le théâtre d'une mobilisation historique pour la défense de l'eau, contre la construction de méga-bassines et contre un modèle agricole destructeur. Manifestation historique par le nombre de manifestants, 20 à 30 000 personnes au beau milieu des champs. Historique aussi par la violence de la répression policière, la violence des discours politiques et parfois médiatiques contre les militantes et les militants. Aujourd'hui, presque un an après, on revient sur tout ça, sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ce que signifie Sainte-Soline et aussi ce qu'il en reste, comment cette histoire a alimenté et continue d'alimenter les mouvements sociaux et les mouvements écologistes. Plusieurs événements ont lieu ces jours-ci qui continuent justement de faire vivre cette lutte. La parution il y a peu d'un ouvrage, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, sous la direction du collectif du Loriot aux éditions La Dispute. Également la journée mondiale de l'eau qui a lieu comme chaque année le 22 mars, ce sera ce samedi, ce vendredi plutôt. Et puis un programme d'action et commémoration de la mobilisation d'il y a un an dans les Deux-Sèvres et partout en France, notamment à Bordeaux. Pour parler de tout ça, j'accueille deux invités. D'abord Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Tu es membre de Bassine Non Merci. Gwendal Roblin, bonjour. Bon, Gwendal, la communication a l'air compliquée, on va se rappeler sur le téléphone, ce sera peut-être plus simple. Gwendal Roblin, sociologue donc à l'université de Poitiers et membre du collectif du Loriot qui a coordonné l'ouvrage « Avoir 20 ans » à Sainte-Soline. On va parler de récits et de contre-récits de ce qui s'est passé le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Du coup, j'ai envie de commencer par une question personnelle. Vos récits à chacun de vous, comment vous avez vécu cet événement? Qu'est-ce qu'il vous reste comme image, comme ressenti de cette journée du 25 mars ou du week-end de mobilisation? Mathieu, qu'est-ce que toi, il te reste de ça?
C'est complexe et c'est très vaste. Il reste beaucoup de choses, il reste beaucoup de détermination, il reste beaucoup de colère, il reste beaucoup de traumatisme, il reste beaucoup de joie aussi, parce qu'à chaque fois on parle de la mobilisation en tant que telle, de la manifestation et de la violence, de la répression qu'on a subie. Il reste aussi beaucoup de joie parce que ce week-end-là, il y avait la manifestation, elle a concerné que quelques heures sur tout un week-end où il y a eu des rassemblements très divers. Et des tables rondes et des rencontres avec des luttes autour de l'eau et de l'accaparement et des pratiques agricoles extractivistes en général, et avec des personnes, des collectifs qui sont venus de toute la France, de toute l'Europe, avec des représentants de peuples autochtones ou d'autres pays qui venaient pour la peine du monde entier. Et donc il y avait toute cette diversité-là. Après, pour la manifestation en tant que telle, clairement un traumatisme, un choc ultra lourd, à la fois dans la répression violente en tant que telle, dans l'obstruction des secours pour pouvoir permettre l'évacuation des blessés, et dans tous les mensonges d'État qui ont suivi, que ce soit au niveau de la préfecture ou du ministre lui-même.
Et de tout ça, il reste un élan, enfin à la fois sur l'aspect plus voilà, dynamisant de la présence pendant tout le week-end, tu le disais, de gens du monde entier, etc. Et sur l'aspect plus douloureux du traumatisme, vous en sentez encore l'effet et le souffle, j'ai envie de dire?
Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure, mais il va être diffusé lors du rassemblement local à Bordeaux. Un nouveau reportage qui vient tout juste de sortir par Off Investigation, qu'on diffusera le lundi 25 mars à Bordeaux dans le cadre des événements de commémoration qui ont lieu un peu partout en France. Et je l'ai vu la semaine dernière, et le fait de le revoir est complètement bouleversant. C'est un récit qui est indispensable pour faire face justement à ce récit officiel et ne pas lui laisser la place usurpée qu'ils ont essayé de mettre en place. Mais c'est rien que de revoir ça, c'est des choses qui sont bouleversantes, traumatisantes et qui font ressurgir toutes les émotions, toute la douleur qui a eu lieu. Et voilà.
Gwendal Roblin, donc tu es sociologue, tu as participé à la coordination de cet ouvrage « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » sur lequel on va revenir, mais question plus personnelle, toi, il me semble que tu étais aussi le 25 mars dernier à Sainte-Soline. Quel ressenti, quelle image personnelle tu conserves de ce moment-là?
Oui, pour la coupure tout à l'heure, et je rejoins ce qui a été dit sur le bilan. Je pense qu'on partage tous un espèce de choc, de traumatisme, des événements, de ce qui s'est passé, de la violence des forces de l'ordre et de la répression de manière générale, et qui a masqué, on y reviendra tout à l'heure, mais qui a masqué toute la logique de tout ce qui a fait que des gens se rassemblent à ce moment-là, les raisons qui étaient là et ce qui s'y est fait. Et puis, voilà, une deuxième sidération qui vient, je pense, après du traitement médiatique, de la qualification d'éco-terroriste et l'impression de se faire voler un peu ce qui s'est passé là, quoi, ce jour-là.
Merci Gwendal. Alors cet anniversaire, il est là grâce au bouquin, au livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » dont on va reparler, mais aussi avec les événements qui sont organisés, qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Mathieu, comment Sinon Merci organise ou appelle à ces événements Sainte-Soline un an après, avec un appel à des booms, notamment lundi prochain, ce sera le 25 mars. C'est quoi pour vous l'objectif à travers ces événements anniversaires, Mathieu?
C'est justement de rappeler que, en dépit de cette répression violente, que ça ne, et de tous ces faux récits, que la lutte est toujours présente, qu'on n'oublie pas, qu'on ne pardonne pas ce qui s'est passé, et que cette logique de répression ne fonctionne pas. De donner à voir justement d'autres récits à travers des passages à travers la présentation de ce livre, à travers la diffusion de reportages et de vidéos, à travers des témoignages, des rencontres, des temps d'échange, de paroles. Donc on aura pour prendre un peu l'ensemble des événements qui auront lieu, donc on aura avant tout, donc il y a la journée du 22 mars avec des événements un peu partout dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Localement, sur les territoires autour de Sainte-Soline et de Mel, qui avaient accueilli tous les événements en marge de la manifestation, il y aura le samedi 23 mars, il y aura deux choses. La construction d'un cairn pour rendre hommage à toutes les personnes blessées. On parle de plus de 200 blessés, plusieurs pronostics vitaux engagés et des milliers de traumatismes psychologiques. Et donc il y aura un cairn pour rendre hommage à toutes ces victimes. Et l'après-midi, il y aura un tournoi des boulistes en colère. Alors pour l'anecdote, c'est dans la construction du récit de violence, il y avait eu des saisies de matériel de tous les véhicules pendant toute la semaine qui précédait l'événement, et où il y avait y compris des boules de pétanque qui avaient été saisies. Et en fait, quand on regarde le nombre de véhicules contrôlés et le rapport de nombre de boules de pétanque saisies, en fait, ça correspond juste à une proportion, je sais pas, d'un véhicule sur 100, et donc ça correspond à des personnes qui se baladent dans temps normal avec leurs boules de pétanque. Il n'y a pas de question de venir en manif avec des boules de pétanque ou je sais pas quoi. Et donc il y aura cet événement-là. Le lundi 25 mars, qui est la date vraiment d'un an après, jour pour jour, la manifestation en tant que telle, il y a l'idée d'organiser des rassemblements spontanés un peu partout en France, comme il y avait eu des rassemblements spontanés à la suite de cette violence, en soutien aux blessés, et comme il y avait eu des rassemblements spontanés aussi suite à la dissolution, à la tentative de dissolution des Soulèvements de la Terre qui a été retoquée par le Conseil d'État. Et donc là, il y a pour toutes ces informations-là, de façon générale, il faut aller voir le site de bassinonmerci.fr, où il y a notamment une carte qui est en train de se remplir au fur et à mesure, avec les différents événements qui sont organisés un peu partout. À Bordeaux, il y a deux événements qui sont programmés pour l'instant. Il y a un premier rassemblement à 18h sur le parvis des droits de l'homme. Et il y aura à 20h à l'Athénée Libertaire la projection du reportage d'offres investigation dont je parlais tout à l'heure et qui donne à voir à la fois le retracé de la manifestation en tant que telle et puis le témoignage de personnes qui étaient présentes et notamment des blessés les plus graves. Et donc ce reportage d'offres investigation qui s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un carnage sera projeté à ce moment-là. Il sera en accès libre sur la chaîne d'offres investigation d'ici quelques jours. Et la dernière étape sera, donc les infos aussi là-dessus, plus localement, elles sont publiées en cours de publication sur la Grappe Info, sur Demosphère Gironde.
Très bien. Et puis, donc ça, c'est les éléments maintenant, là, ponctuels pour ces un an après. Mais il y aura aussi plein de choses. On en reparlera peut-être tout à l'heure, l'été prochain, dans le Marais Poitevin, avec une nouvelle...
Et au printemps,
nouvelle série d'actions donc pour continuer à se battre sur ces questions-là. Gwendal, alors donc tu fais partie du collectif du Loriot qui a coordonné cet ouvrage « Avoir 20 ans » à Sainte-Soline. Donc on peut tous vous citer, Étienne Douat, Joanne Lebars, Mathias Lenzi, Benoît Leroux, Hélène Stevens et toi donc Gwendal Roblin. Peut-être dis-nous un petit peu ce que c'est ce collectif du Loriot et comment ça s'est créé, comment vous en êtes venu à ce livre, Gwendal?
Oui, en fait, on est tous des universitaires, enfin des sociologues et une géographe qui habitons à Poitiers, qui exerçons à Poitiers, si on accepte notre collègue Joanne Lebars qui habite à Poitiers mais qui exerce à Paris. Et en fait, on était tous présents à la manifestation de Sainte-Soline et puis celle d'avant au Printemps Maréchin à La Rochenard ou encore au premier Sainte-Soline. Et donc, on avait ce besoin en fait au retour on a senti un besoin de débriefer avec des étudiants en fait. Et donc ça, c'est deux ou trois collègues, là, Mathias Lenzi, Hélène Stevens et Étienne Douatte, ont organisé une sorte de débriefing avec des étudiants. Et voilà, c'était un moment assez particulier où justement il y avait plein de témoignages de nos étudiants qu'on connaît, alors à la fois parce que ça pouvait être nos étudiants, mais aussi parce que c'était une période de manifestation contre le retraite. Et donc en fait, il y avait on les voyait régulièrement. Et donc à partir de là, la question a commencé à se poser de dire mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces événements et de ce récit en fait qui nous échappe pour un discours officiel, un récit de l'État quoi. Et donc là, là-dessus,
oui, parce qu'il faut rappeler qu'on est dans une période là juste après où il y a un tabassage médiatique sur les violences, les écoterroristes, etc.
Oui, tout à fait, qui avait été préparé avant par Gérald Darmanin, qui avait dit « il y aura des violences, ça sera pas beau à voir », voilà, qui avait aussi un objectif de légitimer les violences qui allaient être faites, qui allaient être commises par les forces de l'ordre les jours suivants. Et donc voilà, avec tout ce discours autour de la figure des éco-terroristes. Et donc on est parti un peu de cette idée de dire « bon, voulait participer à ce contre-discours, hein, qu'on n'est pas les seuls, bien évidemment. On a choisi l'angle de la jeunesse, puisque c'est celui-là, c'est celui-ci auquel on a été confronté en fait avec nos étudiants. On s'est dit qu'on allait tirer, voilà, pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi.
Alors, vous dites dans l'intro du bouquin que vous voulez produire de la vérité sur le monde social. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi produire de la vérité sur le monde social ? Et comment on fait quand on est à la fois sociologue et qu'on a participé à ces événements militants pour se revendiquer d'une certaine forme de vérité ?
Oui, alors c'est pas une question, une position qui est facile. Déjà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire en premier lieu un ouvrage académique. C'est un ouvrage un peu à la frontière entre les deux, puisque c'est avec nos outils de sociologues, de chercheurs, qu'on va en fait essayer de rendre compte de ce qui s'est passé. Et donc pour ça, en fait, on s'appuie sur des faits. En fait, voilà, c'est pas la vérité avec un grand V, c'est plutôt restituer celle qui a été vécue par les gens qui y sont allés et restituer les points de vue, en fait. Hein, je reviendrai dessus après, mais donc c'est plutôt ça, c'est voilà, mettre notre savoir au service de la restitution de ces faits pour reconstruire ce discours et se le réapproprier.
Et avec un truc il est question, je crois, dans l'intro, de la question du stigmate qui est posé sur ces militants, stigmate militant, radical, terroriste.
Oui.
Comment faire pour essayer de détourner ou de passer outre ce stigmate pour redonner de la légitimité, de la valeur à à ces discours-là, à ces points de vue-là?
Oui, c'est assez prégnant, surtout à destination de ce groupe un peu indispensable, les jeunes, en fait, dont on ne sait pas trop à quoi ça renvoie, qui est jeune jusqu'à quel âge, qui dépeint tour à tour comme des casseurs violents ou alors des personnes idéalistes et béates ou encore des personnes qui viennent sans avoir aucune idée d'enjeux économiques et sociaux, en fait, et écologiques réels. Donc nous, on a voulu, en fait, tout simplement, ce qui semble tout simple, mais qui n'est jamais fait, c'est juste de les interroger, de leur donner la parole. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu faire. Voilà. Et c'est ça qui manquait, notamment sur les plateaux télé. Je pense à une contribution du texte d'Acrimed, qui est une association qui fait de la critique des médias et qui a montré en fait dans un des chapitres comment les BFM TV notamment, mais aussi les chaînes d'information continue en général, ont en fait fait ce qu'on appelle du journalisme de préfecture, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit les communiqués de la préfecture sans aucun recul critique. Ils ont invité essentiellement des forces de l'ordre ou des responsables politiques de la majorité ou opposés au projet de méga-bassine. Et donc voilà, donc tout simplement, en premier lieu, en redonnant en fait la parole à ces enquêtés et à ces enquêtés assez jeunes, et donc en les interrogeant, et ce qu'on a fait globalement, c'est qu'on a retranscrit en fait par l'intermédiaire d'un portrait leur réponse.
Alors effectivement, ça donne une forme qui est hyper, hyper, en tout cas, qui est loin du cliché de l'ouvrage académique lourd, dur à lire, etc. Avec un mélange, donc, comme tu le dis, de témoignages directs de participants, participantes à cette mobilisation, de militants d'autres lieux aussi, d'autres collectifs, d'intellectuels, de philosophes, de sociologues, d'artistes, photographes, cinéastes. Et comment vous en êtes arrivé à ce mélange-là, et comment les uns et les autres se nourrissent peut-être ?
Oui, déjà en premier lieu, l'enjeu c'était déjà de restituer cette parole par les premiers concernés, donc d'interroger ces jeunes qui étaient présents. Et dans un second temps, on s'est aussi dit, en fait c'est bien pour comprendre la place de ces jeunes et participer au contre-discours. Ces portraits c'était bien, mais c'était pas suffisant. En fait, on voulait aussi les mettre en regard avec d'autres éléments, alors déjà des éléments très très factuels de qu'en est-il de ces bassines, quels sont les enjeux. Donc on a fait pour ça appel par exemple à Anne Marouen Pastier, qui est une habitante qui est chercheuse en sciences de la terre et qui habite dans le Poitou également, pour un peu expliciter tout ça. Et puis voilà, tous ces textes d'intervention, comme tu dis, ils avaient aussi pour but d'éclairer ce contre-discours et ces positions qu'avaient ces jeunes. L'objectif, c'était aussi l'enjeu, c'est que ça soit accessible, de faire des textes courts. Donc, le plus gros de l'ouvrage, c'est ces portraits de jeunes, et les textes d'intervention, qu'ils soient de chercheurs, d'artistes ou de témoignages, ils sont beaucoup plus courts. Et ils se répondent entre eux, surtout. Et donc, il y a une espèce de cohérence, en fait, entre tous ces textes. Il y en a 29 au total, donc c'est assez fourni. Mais voilà, je pense que la richesse de cet ouvrage, c'est aussi la cohérence entre ces différents formats qui vont se parler. Par exemple, il y a deux livrets photos dans l'ouvrage. On va voir une photo de l'outarde et on va voir aussi qu'elle a un rôle et qu'elle revient dans les discours de certains enquêtés. Et pareil,
l'outarde, il faut dire, c'est l'outarde canne-petière, qui est donc une race d'oiseaux présente à Sainte-Soline et qui est mise en danger par la construction de ces bassines.
Tout à fait. Et en fait, voilà, pour la manifestation, il y avait une énorme outarde qui avait été construite en bois, en fait, qui était assez, donc qu'on a remis en photo dans l'ouvrage, et qui servait en fait pour le convoi outarde rose, enfin le groupe outarde rose, en fait, et l'objectif était de la placer dans la bassine. Voilà.
Puisqu'il y avait donc trois convois, trois cortèges avec des couleurs et des animaux associés, et ben justement, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance et écouter quelques-uns de ces témoignages.
Au début, j'allais seulement aux manifestations climat, des déambulations dans les rues. Ensuite, j'ai fait les manifs sécurité globale, là où je me suis fait gazer pour la première fois. Puis Sainte-Soline, puis la réforme des retraites, avec cette fois plus de manifestations sauvages. Ma façon de militer change. Au fur et à mesure, elle évolue, elle devient plus radicale. Avant, j'étais militant de gauche modéré, maintenant, je suis militant anarchiste radical. Je sens que je peux faire des trucs que je ne faisais pas avant. Je suis prêt à subir des lacrymos, beaucoup plus qu'avant. Je suis prêt à l'affrontement, même si je ne le recherche pas. Sainte-Soline, c'est ma première grosse manifestation. Ça a marqué quelque chose. J'irai plus du tout manifester pareil. Il ne suffit plus d'aller dans les rues et dire « on n'est pas d'accord avec les bassines ». Non, on va sur la bassine. C'est plus concret. Surtout que moi, l'image que j'ai du climat, c'est que dans 20 ans, c'est la grosse sauce. Si on ne fait rien, j'ai vraiment l'impression qu'on va foncer dans un mur. Et je le vois déjà, le mur. Je ne suis pas en mode « non, non, c'est bon, l'humain, il va réussir ». Non, non, en fait, l'humain, je pense qu'il ne va pas réussir. Même si j'essaie de me battre, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas, et ça va faire très mal.
J'étais trop content d'avoir une lutte très précise à rejoindre, avec une dimension où cela parle de ma région, de là où j'ai grandi. Donc, un investissement sentimental, quand même beaucoup plus fort que dans les autres choses que j'avais faites avant. Il y avait ce truc de sidération directement, car nous, on était sur la route, un peu en surplomb, et on avait un spectacle permettant de voir toutes les phases du paysage, avec l'organisation policière, la bassine, les techniques des autonomistes qui s'avançaient. Ce spectacle nous a sidérés, et tout le cortège rose s'est arrêté pour regarder ce qui se passait. Surtout les quads, qui commençaient à faire le tour du cortège le plus hardcore et à balancer des grenades. Déjà, alors que le cortège n'était pas encore arrivé. Donc on se dit, ah bah oui, d'accord, il y a déjà du gaz alors qu'on n'est même pas face à la police. Le lendemain, mes parents m'appellent en me disant qu'il y a un de leurs amis à l'hôpital, car il a reçu un éclat de grenade de 2 cm dans l'os de la jambe, et qu'il doit se faire opérer en urgence, et que l'hôpital de Poitiers est complètement saturé par des gens blessés. Eux sont complètement traumatisés, car ils sont venus avec cette personne, et à un moment, ils ont décidé de s'avancer dans la manifestation, car ils ne trouvaient plus leur ami. C'était horrible. Et en plus, au moment où ils se sont approchés pour essayer d'aller l'aider, ils ont reçu des grenades, se sont fait encercler par les quads, qui les ont lancé des grenades de derrière, alors qu'ils étaient méga, méga loin de ce qui se passait. Et putain, il n'y avait aucune protection. Ils étaient en chaussures de ville, avec leurs vêtements de tous les jours, sans masque, ni rien. Eh bien, en fait, ça aurait pu être eux qui se retrouvent à l'hôpital. Je me suis rendu compte en soirée qu'il fallait absolument que je voie des gens, que je partage des trucs, car c'était... J'étais en train de m'engouffrer dans un truc ultra profond, ultra dark. Et je suis donc allée voir mes parents. Là, je les ai retrouvés. Je ne les avais jamais vus comme ça, jamais de ma vie. Ils étaient trop choqués. Ils étaient dans le mal. Ma mère ne savait plus qui elle était. Elle n'était plus du tout en confiance. Elle ne savait plus si elle était une bonne médecin. Et en même temps, eux, ils n'étaient pas venus à Mel le soir et le lendemain. Ils étaient rentrés de Sainte-Soline et ils ont regardé les infos à la télé. Ils ont commencé à avoir le discours issu des informations et non de leur vécu à Sainte-Soline, où mon père était un peu en train de vociférer contre les Black Blocs. Et d'avoir ce truc, je ne veux plus appartenir à une lutte où on veut tuer du flic. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y allait avoir un enjeu de narration sur ce qui s'est passé, et que mes parents étaient en train peut-être de glisser dans la narration médiatique, officielle, des événements alors qu'ils étaient eux aussi manifestants à Sainte-Soline. L'enjeu dans les prochains jours allait être de contrecarrer ce discours qui allait être une machine médiatique et politique, qui allait écraser nos vécus personnels pour essayer d'avoir une narration de leur événement qui soit contrôlée politiquement et policièrement. Donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se racontent leur propre histoire à eux, en premier lieu, que ce n'est pas forcément aux médias de leur dire ce qui avait été et que l'événement, parce qu'il avait été partie prenante et qu'ils avaient tout à fait la légitimité de raconter leur propre histoire. En fait, je pense que ce que j'essayais aussi de retrouver en allant les voir, en débriefant, c'était une forme d'amour face à toute la violence qu'on avait vécue.
Voilà, on vient d'entendre deux témoignages, deux extraits du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » lu par Léa et Myriam de la Clé des Ondes. En 30 secondes, donc on a dit qu'il y avait lundi pour la commémoration rassemblement à 18h au Parvis des Droits Humains et à 20h projection à l'Athénée Libertaire. Peut-être tu peux nous dire en 30 secondes les prochains événements ensuite au printemps et cet été.
Alors il y aura les suites des actions juridiques qui se poursuivent avec des annonces imminentes aussi là-dessus. On aura une des mauvaises nouvelles, c'est qu'il y a des projets de méga bassines qui poussent un peu partout. Il y aura un grand rassemblement dans le Puy de Dôme le 11 mai. Donc là, vous pouvez aller chercher les informations aussi sur le site Bassines en Merci qui recense l'actualité des luttes des différents collectifs Bassines en Merci qui poussent un peu partout où surgissent des projets de méga bassines. Donc le 11 mai dans le Puy de Dôme. Et puis on aura également un très gros rassemblement du 15 au 21 juillet cet été, à nouveau dans le Poitou, avec une lutte internationale, avec à nouveau des manifestations et des actions, et aussi des rencontres, des tables rondes, des moments d'échange sur les luttes, etc. Et puis on a la nouvelle saison des soulèvements de la Terre qui est aussi en publication et qui donc va permettre, je vous invite à aller regarder aussi du côté des soulèvements de la Terre avec toutes ces luttes qui font corps dans des territoires un peu partout.
Merci beaucoup Mathieu, je rappelle donc que tu fais partie de Bassine Non Merci. Merci beaucoup Gwendal Roblin, tu fais partie merci donc du collectif du Loriot qui a publié cet ouvrage « Avoir 20 ans » à Sainte-Soline aux éditions La Dispute. Merci beaucoup à vous deux et on termine avec une chanson dont les paroles se trouvent dans le livre, ça s'appelle « 1100 » et c'est par le groupe Tchak Boom.